Bonjour, nous sommes mardi matin, c'est La vie est un roman, Yves Tanret. Et j'ai la chance d'être avec Olivier Bonfait de l'Université de Bourgogne et nous allons parler de l'histoire sociale de l'art, dont on a déjà parlé avec Michel Mello dans cette émission, d'une anthologie critique publiée par l'INHA aux Presses du Réel, parue en 2 volumes, et particulièrement d'un article qu'Olivier Bonfait a présenté qui s'appelle « Périphérie versus centre ou problématique de domination symbolique ». Enfin, c'est ça, c'est sa présentation qui s'appelle comme ça. L'essai d'Enrico Castelnuovo et Carlo Ginzburg. Bonjour Olivier Bonfait.
Bonjour Yves.
Vous voulez peut-être commencer par parler de l'anthologie. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous étiez investi dans cette réalisation.
Alors, je n'étais pas forcément beaucoup investi, mais je l'ai vu se grandir, se développer, évoluer à l'INHA, puisque c'était un projet qui avait été lancé par Philippe Borde lorsqu'il était directeur département éthique de recherche à partir de 2007 ou 2008. Et il avait eu l'idée assez intéressante, à la fois pour pallier, en quelque sorte, un manque en France d'un recueil de textes et d'intérêt pour l'histoire sociale de l'art, de proposer une anthologie de textes fondateurs, en quelque sorte, et également aussi de créer des ateliers, parallèles à l'étude de ces textes fondateurs, de créer des ateliers sur certaines thématiques, comme par exemple sur la culture des objets au XVIIIe siècle. Ces ateliers ont été assez riches, même s'ils n'ont donné aucune trace écrite. Ils ont néanmoins fait progresser la réflexion et la recherche. Et vient une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années après, 6-7 ans après une histoire qui a été assez travaillée, comme on dirait, cette anthologie en 2 volumes, qui a été finalement menée sous la direction de Neil McWilliam. Et c'est très bien aussi que ce soit un professeur américain qui est en quelque sorte chapeauté cette anthologie, puisque naturellement le rôle de l'historiographie anglo-saxonne est très importante dans l'histoire sociale de l'art. Ce qu'il m'avait plu en proposant un article de Castelnuovo, qui à l'origine n'était pas d'ailleurs celui qui a été choisi. Les organisateurs de l'anthologie avaient pensé à un autre article de Castelnuovo dont on va reparler. Ce qui m'avait plu, c'était d'essayer de souligner le rôle d'une historiographie un peu à part, dont on va reparler, et qui étaient justement ces historiens italiens qui s'étaient intéressés, volens nolens, bon gré, mal gré, à l'histoire sociale de l'art.
Enfin, juste en passant, le peu de présence de l'histoire sociale de l'art en France s'explique par la place qu'occupe la sociologie, en fait, je pense. Et aussi le Parti communiste français, enfin, c'est une vaste histoire, mais parce qu'il y a une résonance marxiste très forte dans l'histoire sociale. Enfin, il faut s'entendre, parce que cette anthologie prend tout et n'importe quoi et le met côte à côte, et il y avait une espèce de version canonique hongroise à l'origine lukacienne de l'histoire sociale de l'art, qui avait un certain cadre qui était lié au marxisme et de gens qui, dont certains avaient la carte du Parti communiste, dont Castelnuovo, dont nous allons parler. Et entre le PCI et le PCF, il y avait un gouffre énorme. Et puis en plus, la France, c'est le pays d'Urquin, etc., etc. Donc on est là dans une problématique.
Alors en effet, la situation française était un peu crispée, on va dire. Entre d'un côté Alors, il y a les trois pôles, en quelque sorte. D'abord, il y a le poids des musées en France, qui est une institution fondamentale, mais à juste titre, mais qui a présente, au moins jusqu'en les années 2000, les œuvres d'art d'une certaine manière, plutôt pour la période moderne et même aussi pour la période contemporaine, par des approches monographiques, et qui, en quelque sorte, mettait à la marge une histoire sociale de l'art, même si certaines expositions récentes, je pense notamment à certaines de Jean Clair, par exemple sur la figure de Saltimbanque, ont réussi parfaitement à l'intégrer. Après, il y avait une histoire de l'art, j'allais dire classique, on peut dire même, pourquoi pas, traditionnelle, à l'université, et qui a dominé l'université française pendant assez longtemps, et qui s'est extrêmement méfié, voire condamné parfois assez durement un autre type d'histoire de l'art qui pouvait prendre des outils aux sciences humaines ou qui pouvait relever d'idéologies marxistes. Et puis il y a aussi un petit groupe d'historiens de l'art marxistes qui ont cherché à, quelque part, parfois aussi par leur la virulence de leur attaque, mais ils devaient s'attaquer à une domination qui était assez forte, qui s'est violemment attaqué à cette histoire de l'art classique et qui a cherché à démythifier la parole de l'artiste, le statut de l'artiste, le statut de l'œuvre d'art. Et il y a en effet certains textes dans cette anthologie. Vous avez vous-même interviewé Michel Melot, qui était justement un des fervents de cette autre approche de l'histoire de l'art. La situation en France est très crispée aussi, je pense, par le poids qu'a eu mai 68, en quelque sorte, et qui a dû couper en partie la communauté. Un effet marquant, j'ai trouvé, dans cette anthologie, justement, c'est l'absence d'André Chastel. D'accord, finalement, ouais. L'ouvrage Art, humanisme à Florence, c'est un ouvrage qui, par certains côtés, pouvait relever de l'histoire sociale de l'art, qui cherchait à comprendre comment s'étaient développées certaines théories artistiques, esthétiques à Florence, un certain style, parfois chez Botticelli, en le liant à une communauté intellectuelle, en voyant le rôle de Médicis. Or, finalement, Chastel n'est pas dans cette anthologie. Bon,
c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il y a un gros problème, c'est Franck Castel aussi.
Et il y a un problème Franck Castel.
Parce qu'il y a Pasco Belsine, par exemple, l'histoire de l'art sur le Moyen-Âge, là.
Oui.
Parce que c'est un Strasbourgeois, il y a quelque chose avec l'Allemagne, la langue allemande, et Franck Castel a des moments de régression absolument phénoménal avant-guerre, par exemple. Et puis, il a une position de monopole, enfin, il fait barrage à Panofsky. Et c'est Bourdieu qui va publier le premier Panofsky en français. Enfin, il y a une autre histoire, mais on pourrait peut-être plutôt parler de la, enfin, si vous êtes d'accord, de l'article de Castelhouvaux et de votre travail là-dedans, ou de l'aspect de ce qu'il y a dans l'anthologie.
Alors, je crois que c'est lié à Castelhouvaux. C'est justement un des points qui m'avait intéressé dans l'historiographie de l'art italienne. C'est que cette scission qu'il y avait en France, extrêmement violente, certainement, plus violente qu'on peut nous l'appréhender maintenant en 2000, ou que j'ai pu l'appréhender encore étant étudiant dans les années 1980, ce côté très marxiste qu'il y a dans le côté de l'histoire de l'art américaine, qui n'existe pas forcément dans l'histoire de l'art anglo-saxonne britannique, ou qui est plus souple, cette opposition n'existait pas en Italie. Et je crois que ce qui a fait la chance de quelqu'un, la chance, le terme n'est pas exactement, mais ce qui a permis l'éclosion de cette histoire sociale de l'art en Italie, c'est que c'est justement des élèves de Roberto Longhi, donc d'une histoire de l'art très classique et attributionniste, comme Enrico Castelnuovo, Gianni Romano, Bruno Toscano, qui se sont mis dans les années 1960-1970 à regarder les œuvres d'art et à les interroger autrement. Et il n'y a pas eu cette rupture qui a fossilisé aussi quelque part la situation en France dans les années 1960-1970 et qui a orienté l'histoire sociale de l'art aux États-Unis dans une certaine direction. Et Enrico Castelnuovo, c'est intéressant un peu de refaire son parcours. Donc il est né en 1929. Il va faire une thèse en histoire de l'art qui est une thèse d'attribution sur Matteo Giovanetti et sur la peinture à Avignon qui est publiée en 1962. Et à partir de 1962, il va chercher à regarder un tout petit peu ailleurs et essayer de faire publier des textes d'histoire sociale de l'art, donc le texte par exemple de Klingender sur art et révolution, en publiant des essais introductifs. Il a un rôle très important à Einaudi, la grande maison d'édition turinoise sur laquelle on pourra revenir, mais aussi en publiant des textes sur cette histoire sociale de l'art dans la revue qui était la revue de Roberto Longhi, qui est Paragone. Et ça, je crois que c'est très important. C'est des gens qui avaient sans difficulté un lien avec l'histoire de l'art et des expositions pour les musées, et un lien avec une autre histoire sociale de l'art. Et je crois que Castelnuovo, par sa curiosité intellectuelle, par les contacts qu'il a su tisser aussi grâce à Einaudi, a eu un rôle très important dans cette Italie des années 1960-1970 et a pu faire émerger certains historiens de l'art en les publiant chez Einaudi. Et c'est donc aussi un petit peu un hommage, en quelque sorte, à ce rôle de cette personne comme révélateur, comme curiosité intellectuelle et comme révélateur que j'avais voulu aussi mettre en avant dans le texte, dans sa présence dans l'anthologie.
Il était, je dois dire qu'il n'était jamais dogmatique, et ça me fait penser que j'avais comme sujet d'examen à Lausanne, donc c'était mon enseignant à Lausanne, en 75, Antal, donc la peinture florentine au XIIIe et au XIVe siècle et ses enjeux sociaux, et que j'ai lu l'édition italienne, puisque ça n'existait pas en français.
Oui.
Et que j'avais vécu 6 mois à Rome et que j'avais des facilités en italien. Donc j'ai lu l'édition italienne pour préparer l'examen. Donc on n'avait pas accès à ces textes. Et c'est important, cette dimension. Par exemple, ben, vous allez en parler, je pense, mais Castelnuovo était très attentif à ne pas donner dans la théorie du reflet et dénoncer, par exemple, chez Hauser, une espèce d'histoire de l'art social assez caricaturale. Donc on a... Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si c'est l'empreinte de Gramsci ou si c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel. En plus, il y a Longhi, oui. Je ne sais pas, pour faire image, on peut dire que Pasolini était aussi un élève de Longhi et qu'il a fait des essais sur la peinture qui sont pas mal. C'est assez amusant comme... on n'a pas d'équivalent ici, on n'arrive pas à trouver.
Alors en effet, je pense que, vous le dites justement, à la fois Longhi et d'autres grands historiens de l'art italiens, ne serait-ce que Argan par exemple, avaient réussi à donner à l'histoire de l'art comme discipline intellectuelle, et pas uniquement comme discipline humaniste, mais comme discipline intellectuelle, un statut en Italie, qui fait qu'elle a été respectée et qu'on ne pouvait pas forcément voyez, la prendre de l'extérieur, comme l'ont fait en effet soit les historiens, parfois en France, où elle a été réduite parfois à une histoire des images, soit à une approche plus uniquement sociologique et relevant d'idéologie politique ou marxiste, comme avait pu le faire Hauser ou Antal. Donc il fallait partir en quelque sorte de l'histoire de l'art, et ça c'était accepté. Et après il fallait être curieux d'autres approches, d'autres disciplines, et ça a été le rôle de Castelnuovo. Donc en effet, Castelnuovo aussi, par la formation de Longhi, de Croce, etc., ne pouvait pas forcément, je vais pas dire ne pouvait pas accepter, mais pensait que la théorie du reflet était une théorie pauvre, d'accord, et que les œuvres d'art, les artistes, même s'il a enquêté sur le statut de l'artiste au Moyen-Âge, transmettaient certainement par des biais plus complexes l'état d'une société, les aspirations d'une société, que par la simple théorie du reflet. Cette théorie du reflet avait été extrêmement critiquée par Gombrich, donc le directeur à l'époque de l'Institut Warburg. C'était quand même une figure intellectuelle extrêmement imposante. Pour nous, en France, on est d'abord passé par Gombrich avant d'arriver à d'autres auteurs approchant l'histoire de l'art par d'autres biais. Et Gombrich avait violemment condamné cette histoire de l'art de Hauser ou de Antal, qui était une histoire de l'art, en effet, s'appuyant sur le fait qu'il y avait une traduction, peut-être plus qu'un reflet, parfois notamment pour Antal, entre un statut social, une position en quelque sorte, un état économique et social et un certain type d'art, surtout lorsqu'il y avait des grandes fresques comme ça sur diachronique, comme avait fait Hauser. Mais Gombrich était... alors je ne vais pas dire retombé, même si c'est ce que je pense en quelque sorte, avait du coup privilégié, aussi un peu en s'appuyant sur les travaux de Frédéric Haskell, qui était l'historien de l'art accepté en France dans cette tendance-là, sur soit en quelque sorte une logique de la mode, soit une logique de l'innovation. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on pouvait faire bouger, en quelque sorte, l'évolution artistique avec un néo-positivisme qui était assez fort. Et ce qui est intéressant, et c'est, je crois que c'est aussi l'intérêt de l'article de Castelnuovo-Ginzburg qui est repris dans l'anthologie, c'est que quand Castelnuovo fait un bilan de l'histoire sociale de l'art dans les années qui est paru en Paragonais en 1976 et qui est paru avant aussi dans les actes de la recherche en sciences sociales, il dresse un état qui est un tout petit peu, j'allais dire, un état statique. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a eu cet intérêt pour l'histoire des collections et des mécènes avec Haskell, qu'il y a eu cette histoire sociale de l'art globale, on pourrait dire, d'inspiration marxiste avec Hauser et Antal, et qu'il y a eu des justes critiques de Gombrich, mais qui ne parfois réduisent en quelque sorte l'histoire sociale de l'art à juste une chronique et non pas à une histoire. Et je crois qu'à ce moment-là, la situation est un tout petit peu... D'ailleurs, c'est le plan de l'article dans Paragonais, et aussi l'article est publié dans les actes de la recherche en sciences sociales. C'est un point de vue ou un état. Alors, c'est aussi lié à l'article, un état de la recherche, mais c'est, j'allais dire, une considération qui est un tout petit peu statique. Du coup, on ne voit pas forcément comment en sortir. Et l'article qu'il fait avec un historien, Carlo Ginzburg, Domination symbolique et géographie artistique, permet à mon avis, aussi parce qu'il est lié à d'autres types, à des nouveaux types émergents d'histoire, notamment liés avec Carlo Ginzburg, permet de sortir de cette impasse, quelque part, pour essayer de proposer de nouvelles dynamiques. Et alors, naturellement, pour ces nouvelles dynamiques, Castelnuovo pouvait déjà s'appuyer sur des recherches en cours en histoire de l'art ou en histoire qui se déroulaient en Italie.
Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale et après, on reprendra le contenu de l'article. Nous parlions de l'article de Castelnuovo et de Ginzburg. Là, j'ai donné le titre exact. Pourquoi je ne le trouve pas ? Domination symbolique et géographie artistique dans l'histoire de l'art italien. Il y avait. Vous en parlerez, je pense, mais il y a aussi. C'est assez amusant pour moi. La question de la traduction, la différence entre l'original italien et la version française. C'est son rapport de séduction avec Bourdieu est assez amusant.
Alors exactement.
Vous pouvez peut-être expliquer d'abord le contenu de l'article pour qu'on comprenne de quoi on parle.
Alors le contenu de l'article est donc rédigé à l'époque par deux personnes relativement jeunes. Hein, Castelnuovo, né en 1929, donc... En 79, bon, vous me direz, il a 50 ans, mais dans une carrière intellectuelle, c'est encore ça va. De la jeunesse. Ouais. Et Carlo Ginzburg, qui avait 40 ans. Tous les deux étaient professeurs aussi, je crois qu'il faut quand même le souligner. Ça n'a rien de Voilà, c'est juste. Tous les deux étaient aussi dans les situations périphériques, d'accord. Carlo Ginzburg est alors professeur à Lecce, je crois, et Enrico Castelnuovo est professeur à Lausanne, donc ils ne sont pas encore au centre.
Ils ne sont pas reconnus par l'institution italienne.
Carlo Ginzburg va devenir assez rapidement après professeur à Bologne, et Castelnuovo professeur à l'école normale de Pise. Donc il y a aussi ce côté vécu, en quelque sorte, des tensions entre le centre et les périphéries. Et c'est un article qui est publié dans un ouvrage très important, qui est ce premier volume de la Storia dell'arte italiana, édité par Einaudi. Il faut souligner le rôle des éditions Einaudi, c'est aussi quelque chose qui a manqué en France. Un premier volume qui s'appelle « Materiali e problemi »,« Matériaux et problèmes », »,« Questions de méthode », d'accord, en 1979, où il va y avoir deux essais qui vont être fondamentaux. Un de Giovanni Previtali sur le problème de périodisation dans l'histoire de l'art italien, et qui va donc chercher à critiquer les périodisations reconnues, qu'elles soient par siècle ou stylistique, et l'article de Castelnuovo et de Ginzburg sur les problèmes de géographie. Donc on a à la fois le temps et l'espace dans cette double critique d'une histoire reconnue, en quelque sorte, d'une acceptée de l'histoire de l'art en Italie. Et Castelnuovo et Ginzburg cherchent, en fait, en s'appuyant sur l'histoire de l'art italien, la géographie italienne, à réagir à une idée qui avait été émise par un de ceux qui était une voix prédominante dans l'histoire de l'art anglo-saxonne, Sir Kenneth Clarke, qui était le responsable des collections de la Reine, conservateur des collections de la Reine, etc. Et aussi celui qui avait fait des très belles expositions. Des très belles émissions télévisées sur l'histoire de l'art à la BBC.
Il se mettait devant les œuvres.
Il se mettait devant les œuvres.
C'est à une époque.
Et qui avait expliqué, enfin souligné le rôle capital, le rôle fondamental, le capital artistique, des foyers artistiques qui irradiaient en quelque sorte le progrès vers les périphéries, vers les zones annexes, les territoires limitrophes de plus en plus lointains. Et face à cette idée de domination, qui va être d'ailleurs traduite comme domination symbolique dans la traduction française, Castelnuovo et Ginzburg ont l'idée de montrer qu'il y a en fait non pas un rapport toujours d'influence bénéfique du centre vers la périphérie, mais qu'il y a une idée de tension, en quelque sorte, entre centre et périphérie, et que parfois, c'est aussi l'étude de Castelnuovo sur Avignon, les périphéries peuvent être lieux d'innovation artistique, car elles sont le lieu de métissage. Et on voit que c'est pour nous une histoire qui est extrêmement actuelle. Alors cet article paraît, donc cet essai paraît dans Storia dell'arte italiana en 1979, et il est publié en français en 1981 dans la revue de Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales. Alors en effet, tout de suite, ne serait-ce que le titre change, d'accord, entre centre et périphérie, qui renvoie à des notions de géographie humaniste et aussi de géographie française. Les deux auteurs, d'ailleurs, citent tout de suite Lacoste et la géographie, la science de la géographie française. Le titre renvoie à des thèmes chers à Pierre Bourdieu, avec, par exemple, domination symbolique et géographie artistique. Et le terme de domination symbolique, qui n'apparaît, je crois, juste qu'une ou deux fois dans la version italienne, apparaît au moins 5 fois ou 6 fois dans la version française. Donc il y a une marque, certainement, de Pierre Bourdieu dans cette traduction française. D'abord, parce que Castelnuovo avait été extrêmement intéressé par l'apport de Bourdieu à la fois à l'histoire de l'art en tant que tel, rappelant qu'un des premiers traducteurs de Panofsky en France, c'est Pierre Bourdieu. D'accord ? Il y a ici quelques absences dans l'histoire de l'art traditionnelle ou l'histoire de l'art officielle qu'il faut souligner. D'autre part, les actes de la recherche en sciences sociales, une revue fondée par Pierre Bourdieu lorsqu'il avait été nommé professeur au Collège de France, je crois que c'est à partir du moment où il est professeur au Collège de France qu'il réussit à la créer, Pierre Bourdieu s'était beaucoup intéressé à l'histoire de l'art, à essayer de la faire sortir de ses gonds traditionnels en France. Et il a ainsi, dans le même numéro, publié un article fondamental de Baxendale sur l'œil du Quattrocento. Il avait aussi publié des articles de Haskell ou d'autres. Il y avait donc eu, pendant 10 ans, dans les actes de la recherche en sciences sociales, les sociologues français, parce que c'est une revue qui n'était pas tellement lue par les historiens de l'art classiques, reconnaissons-le, pendant 10 ans, les sociologues français ont pu voir un peu ce qui se passait hors de France pour faire aborder de nouvelles manières les œuvres d'art ou l'histoire de l'histoire de l'art. Et donc cette marque de Bourdieu se sent d'autant plus que d'ailleurs Castelnuovo le raconte dans la préface de Arte Industria Rivoluzioni, qui est une réédition italienne de ses différents essais d'histoire sociale de l'art, comment il avait assisté à un séminaire de Bourdieu à Genève, qu'il avait été très intéressé par sa démarche et qu'il avait fait venir enseigner à Lausanne lorsqu'il était professeur.
C'était un colloque sur les musées genevois. Voilà. J'y étais. Et il a jamais enseigné à Lausanne, mais il est venu faire des conférences.
Il est venu faire des conférences, plutôt, oui.
C'est compliqué de trouver une place de prof.
Oui, mais il est venu faire des conférences. Et il faut rappeler que Bourdieu avait publié en 1969, je crois, un livre qui s'appelait « L'amour de l'art », qui avait été une commande de l'ancienne direction des musées de France, à peu près, voilà, sur le public des musées.
C'était ça pour ça qu'il a été invité. Voilà, oui. C'est là que s'est fait la rencontre. Et je suis devenu son étudiant. Je suis monté à Paris à cause de ce colloque pour faire un doctorat avec lui.
Et que cette enquête qui avait été, j'allais dire, extrêmement à la fois dure, mais qui montrait la réalité, c'est-à-dire que finalement, les musées étaient faits pour 3, 4, 5% de la population française et que 95% des habitants d'une nation n'y entraient pas, ou presque pas, ou y entraient de manière fugace, en quelque sorte, et fugitive. Il faut rappeler que cette enquête a été un tout petit peu bloquée par la direction des musées de France dans sa publication. Et donc Bourdieu va la publier dans l'édition de Minuit, et c'est aussi aux éditions de Minuit il va publier la première traduction de Panofsky sur l'architecture gothique.
Et il y a un art moyen aussi sur la photographie qui avait beaucoup marqué. L'histoire de l'art à Lausanne, oui. Je ne sais pas en France, mais il y avait une approche du public, en fait, qui serait une des revendications de Castelnuovo dans son article sur l'histoire sociale de l'art. Il y avait une prise en compte.
Voilà, c'était un des facteurs nouveaux, en effet, que cherchait à lancer Enrico Castelnuovo, qui n'était pas forcément présent dans les travaux de Haskell ou ailleurs, ou qui s'appuyait juste sur la psychologie dans les travaux de Gombrich, qui était la prise en compte du public.
La réception, en fait, comme c'est ce qu'il disait.
Alors, théorie de la réception, ce qui est un tout petit peu différent, puisque la réception renvoie à une théorie de Constantius. Oui. Et que l'idée du public remet, j'allais dire, un facteur social un tout petit peu plus présent. Donc on avait, c'est ce qui explique finalement aussi dans domination symbolique et géographie artistique, c'est qu'il y a trois pôles en quelque sorte, ou quatre pôles. Il y a le pôle du politique, le pôle des commanditaires, le pôle de l'artiste et le pôle du public qui peut faire en quelque sorte bouger les choses. Et il en donne des exemples très concrets. Dans son essai.
Bourdieu préconisait les cartels, préconisait les explications, préconisait d'amener le musée par différents moyens aux gens. Et donc, il ne disait pas qu'il fallait lire les cartels, il disait que la présence d'un cartel présuppose qu'il y a quelque chose à comprendre. Que ce n'est pas un don qui tombe du ciel, qu'on ne comprend pas les œuvres d'art dans leur génialité, parce qu'on est soi-même génial comme spectateur, qui a effectivement un droit de passage, qui est de la connaissance à payer, et que la présence du cartel est rassurante. Alors franchement, ces 30 dernières années, après son livre, on a toujours vu des cartels dans toutes les expositions, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense, moi, que ça n'a pas changé le public des musées, mais je n'en sais rien, en fait. C'est quelque chose qui...
Alors, en effet, cette remarque est très intéressante, parce que c'est la même approche dans les deux cas. D'accord, en effet, pour le musée, Bourdieu dit qu'il faut qu'il y ait des outils de médiation, en quelque sorte, d'accord, si on veut prendre un terme
qui
actuel.
Déculpabilise, qui décomplexe.
Voilà, et qui fasse sortir aussi l'idée que c'est l'art pour l'art, d'accord, quelque chose totalement autonome et qu'on y rentre soit parce qu'on a, alors après il va développer ça une culture, un capital symbolique, soit parce que c'est l'idée du croisement de génie, en quelque sorte. Et en effet, dans l'histoire de l'art telle que celle se pratiquait ou telle que pratique, par exemple, l'idée de la monographie artistique, c'est l'idée qu'on va comprendre et que c'est la vie et l'œuvre, c'est aussi la notion d'auteur, et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en quelque sorte l'œuvre d'art, elle se comprend toute seule ou elle se comprend juste par certains faits biographiques qui permettent de plutôt établir une chronologie de l'œuvre que d'expliquer. Dans les deux cas, on est un tout petit peu revenu. Parce qu'on a vu en effet qu'en mettant des cartels, on se rend compte encore actuellement que le public du Louvre n'est peut-être pas aussi diversifié qu'il pourrait l'être, ou d'autres publics. Et d'autre part, on s'est rendu compte aussi, mais ça c'est un discours post-68 en quelque sorte, que le cartel imposait un certain type de discours, et que si on rentre dans des théories de certaines personnes, elles briment en quelque sorte l'éclosion de l'appréhension personnelle particulière de l'œuvre d'art. Elle reproduit un discours, qu'on pourrait dire un discours dominant, et qui fige tout de suite la lecture, la vision de l'œuvre par ce qui est la doxa officielle. Et il y a par exemple des idées assez intéressantes de créer du coup un cartel qui est assez éloigné pour qu'il y ait un effet de jonglage en quelque sorte entre la vision de l'œuvre, la lecture du cartel, le retour à l'œuvre qui permet une distance critique, vous voyez, au regard de s'élaborer, de poser tout d'un coup à partir d'informations, mais son propre regard sur l'œuvre.
Mais ça dépend de ce qu'on appelle par public. Enfin, c'est peut-être pas le débat, mais c'est très intéressant. Vous avez parlé de la notion d'auteur. Et si on travaille, c'est là que ça commence à devenir sexy, si on travaille sur ces choses-là, je sais pas. Enfin, le travail qui s'est fait sur l'atelier de Rembrandt, par exemple, qui rend les experts des Rembrandt, tout ça, qui rend tout le monde fou, c'est pas la demande. La demande reste une demande de génialité. Donc, le travail du musée il nous avait emmenés en Lorraine visiter le premier co-musée, ça s'appelait.
Oui.
Musée du Fer. Voilà, il y a la statue de Schneider quand on descend à la gare. C'est au Creusot.
Au Creusot.
Et ils adoraient ça, donc, vu qu'ils faisaient de l'histoire sociale de l'art, et cette idée de montrer le travail, tout ça, mais on ne peut pas dire que ça entraînait une forte adhésion du public. Le public ne veut pas voir le travail. Et il y a quelque chose.
Ça, c'est un petit peu différent. Je me rappelle justement avoir parlé avec Enrico Castelnuovo de l'exposition sur les paysans qui avait été présenté à la Bibliothèque nationale, je crois. Je crois aussi que les écomusées sont quand même fréquentés, sinon il n'y en aurait pas autant, même s'ils ont parfois un rôle de conservatoire, en quelque sorte. Et je crois que le public sait se diversifier. Il faut une politique des publics, contrairement à certaines politiques actuelles où on dit le public demande ça, donc il faut répondre et juste fournir ce que le public attend. Les écomusées, la muséographie de Georges-Henri Rivière était aussi une idée, ne serait-ce aussi par exemple que le texte de Castelnuovo-Ginzburg, une idée d'éduquer un public, d'éduquer des historiens de l'art. Éduquer, le terme est un tout petit peu trop fort, mais de susciter des curiosités pour aller voir d'autres types d'expositions. Et l'exposition, par exemple, sur certaines expositions de Jean Clerc ou
j'ai pensé à lui, c'est marrant ça. Pensez la même chose, l'exposition au Grand Palais.
L'exposition au Grand Palais, sur le saltimbanque, etc. sont expositions qui auraient été inconcevables, qui n'auraient été même pas acceptées par la RMN.
Et l'exposition sur la criminologie, là, montrée avec les moyens de l'art contemporain, en fait, il utilisait toutes les techniques d'art contemporain, c'était formidable.
L'exposition sur punir, qui s'était déroulée à Orsay, montre qu'on peut maintenant susciter l'intérêt du public avec d'autres types de discours que le discours du génie. C'est aussi l'intérêt d'histoire sociale de l'art, c'est montré que finalement, et c'était l'intérêt aussi des musées des ATP, c'était que la création humaine n'est pas uniquement dans des très grandes œuvres qui, de toute façon, sont dans un panthéon, qui est parfois aussi, il faut le reconnaître, un tout petit peu fluctuant. C'est ce qu'avait montré Haskell. Et dans l'essai d'ailleurs de domination symbolique et géographie artistique, Castelnuovo-Ginzburg montre qu'il y a un temps long, une géographie autre que centre et périphérie, qui est dans un art qui est dit populaire et qui peut résister, le terme résister explicité par les deux auteurs, à des effets de domination politique ou de domination religieuse. Donc ça, il y a eu comme ça un élargissement, dont Castelnuovo a été aussi un des premiers lorsqu'il a fait ses grandes expositions sur les arts dans les Alpes, en montrant, alors il voulait là aussi, ce qui est intéressant de Castelnuovo, c'est quelqu'un qui a cherché à ouvrir l'histoire de l'art et à je ne vais pas dire à briser des mythes, mais à montrer que certaines idées reçues étaient beaucoup plus complexes qu'on ne le pensait. Et donc, pendant très longtemps, on avait pensé que les Alpes étaient une frontière, d'accord, et que ça explique aussi l'école italienne, l'école française, etc., des notions d'école qui sont critiquées dans l'essai de domination symbolique. Et Cassanova a fait deux ou trois grandes expositions où il a montré qu'au contraire, les Alpes sont une notion de passage ou de fabrication d'œuvres nouvelles ou d'œuvres qui reprenaient des éléments venant à la fois du Nord et du Sud et d'émergence aussi d'autres types de spiritualité. Et il le montre à la fois dans des œuvres assez célèbres, que ce soit par exemple les fresques du château de Trento, pour l'archevêque du lieu, mais aussi dans des objets de culture religieuse au quotidien. Et il montre comme ça, c'est toujours cette allée et venue dans les deux sens, entre le haut et le bas. Et ça, je crois que c'est un des grands apports de Cassanova qu'il avait déjà souligné en publiant le texte de Klinger sur art et révolution.
Oui, c'est bien. On va refaire une petite pause musicale, s'il te plaît, Adrien. On est sur Allegre FM, donc 93.1. Je suis avec Olivier Bonfait. On parle de l'anthologie d'histoire de l'art qu'a publié l'INHA aux presses du réel. Et je vous ai interrompu, vous voulez dire quelque chose?
Non, ce qui m'avait semblé aussi intéressant par rapport justement à l'anthologie, cette anthologie qui est orientée, je vais dire, assez naturellement, mais ça pourrait être questionné en fait, vers plutôt des textes anglo-saxons. Ce qui m'avait intéressé, justement aussi, c'était de souligner l'apport de cette histoire sociale de l'art italien, qui est peut-être moins connue, aussi pour un problème de langue. C'est-à-dire qu'on a finalement la traduction du texte de Cassanova grâce à Pierre Bourdieu, mais que des essais qui sont assez importants, comme celui de Gianni Romano sur Casalesi del Cinquecento, donc qui montre l'évolution artistique ou l'évolution de la situation artistique dans une petite ville à Casale, dans le Piémont, au 15e, au 16e siècle, par aussi les changements politiques et les changements sociaux. Ce sont des essais qui n'ont même pas eu, j'allais dire, un compte-rendu, je crois, en français ou un résumé, qui aurait permis de faire une autre approche de l'histoire sociale de l'art, plus géographique, liée à la micro-histoire. Il faut souligner naturellement le rôle de Carlo Ginzburg, de Giovanni Levi, qui est turinois, qui était un ami d'Enrico Castelnuovo, par rapport à une autre approche d'histoire sociale de l'art américaine, qui va centrer en quelque sorte vers les périodes révolutionnaires de progrès politique, parce qu'il y a cette idée-là aussi chez les Américains, 1789-1848, avec par exemple l'essai de T.G. Clark sur Courbet, un essai très intéressant, mais qui lie en quelque sorte, on fait l'histoire sociale de l'art à un moment parce que la situation politique bouge et que la société bouge en quelque sorte. Alors ce qui est intéressant aux Italiens, c'est que finalement ils étudient une société qui reste une société très traditionnelle, que ce soit pour la Renaissance ou pour la période 16e, 17e siècle, mais qu'ils réussissent à en montrer qu'on peut faire de l'histoire sociale de l'art. Il y a cette déconnexion, alors que finalement ils sont tous, j'allais dire, plus marxistes qu'à mon avis, enfin Lussier, on va dire, pardon, au Parti communiste, et à une certaine approche de
l'histoire Clark était situationniste, il est
Clark
formidable.
Était situationniste, oui. À une certaine histoire du Parti communiste en italien, mais qui les pousse à s'intéresser, vous voyez, non pas à des situations de tournant, qui en effet facilitent certains discours, etc., mais des situations stables, qui sont des situations, j'allais dire, pour reprendre moyenne, pour reprendre l'art moyen de Bourdieu, et où là, justement, il cherche à démonter le sens commun, pour reprendre un concept cher à Bourdieu, et des facteurs d'évolution et d'autres types d'approches de l'œuvre d'art.
Peut-être le moment de vous poser la question. J'ai vu que vous disiez que The Shape of Time de Kubler avait la forme du temps en français avait beaucoup influencé Castelnuovo. Et c'est amusant parce que ça a été publié chez Champ Libre, qui était la mesure d'édition crypto-situationniste. Quelle est l'influence de Kubler, qui est un élève de Faucillon, sur Castel?
Alors, Castelnuovo était un esprit très, très curieux de tout.
C'est vrai.
Donc, il allait aussi, je crois, par son rôle aux éditions Einaudi, où il a comme ça lancé de multiples traductions, dont celle aussi de l'ouvrage de Hauser ou surtout de Antal. Donc, il allait maîtriser plusieurs langues. Et donc, il allait regarder sans a priori ce qui se produisait dans d'autres pays un peu nouveaux, dans d'autres historiographies de manière un peu nouvelle sur l'histoire de l'art, et voir si ça pouvait d'abord être utile pour l'histoire de l'art italienne. C'est ainsi qu'il a réussi à la faire bouger, et également être utile en quelque sorte à la discipline. Et je crois que ce qui l'avait aussi intéressé dans l'essai de Kubler, c'était, là aussi, c'est-à-dire le parcours de Kubler, comment quelqu'un formé par Faucillon en vient à s'intéresser à l'art d'Amérique du Sud, et à des formes assez éloignées quand même de ce qu'était l'art roman de Faucillon, d'accord. Et aussi de voir comment justement on pouvait réfléchir sur d'autres objets et sur la dimension temps, parce qu'il y a dans l'histoire de l'art italienne, c'est aussi, comme le montre l'essai de Previtali sur la périodisation, une réflexion sur le temps, une réflexion sur quel est le poids de l'histoire dans l'évolution des formes, et comment on peut raconter cette histoire, en quelque sorte, qui intéressait Enrico Castelnuovo. Il y a aussi cette approche anthropologique, qui devient la fin anthropologique de Kubler, qui certainement a intéressé beaucoup Enrico, avec justement cette curiosité qu'il a eue pour les cultures d'objets, la culture matérielle. C'est un des premiers finalement qui s'est intéressé à la culture matérielle dans, par exemple, la civilisation les productions artistiques manufacturées dans les Alpes du 1er siècle après Jésus-Christ au 20e siècle. Il y a aussi cette dimension diachronique de Castelnuovo qui est extrêmement forte. Il s'intéressait de l'Antiquité au 21e siècle. Non pas avec un regard de critique, comme a pu le faire très bien Daniel Arras, par exemple, d'accord, qui écrivait aussi bien sur la Renaissance, sur le Moyen-Âge, que sur des artistes contemporains, mais avec une dimension historique. C'est peut-être là, c'est aussi un des plus de son approche. Pour lui, il n'y avait pas de rupture dans le discours. Il y avait toujours cette...
Chez Arras, il y a quelque chose de psychologique, en fait. C'est une espèce de freudisme, je trouve, moi, assez bon marché. On cherche ce qui fait symptôme, ce qui est les indices, les choses un peu dissimulées. On sort un lapin d'un chapeau. Mais je pense à Castelnuovo, par exemple. Il m'avait conseillé de lire Eric Ambler. Et il avait fait, donc quelqu'un écrivait des romans d'espionnage, et il avait fait une mention de la toile d'Altor Fer, ou une espèce de sainte cosmique. Mmh. Et l'idée, c'était on va retrouver ça chez Philippe Cadic, là je suis en train de travailler sur Philippe Cadic, c'est un personnage anonyme qui bouleverse une histoire. Hein. On a ça chez Graham Greene aussi, bien sûr. Et donc ce qui lui plaisait, je pense, c'était cet aspect-là de prendre Bloom dans Ulysse de Joyce. C'est des personnages très simples qui n'ont pas d'histoire et qui incarnent la continuité, qui incarnent la plus forte matérialité d'une société à un moment donné. Ça marche très bien pour Bloom. Il y a cet aspect juif en plus qui marche aussi pour Castelnuovo. Oui. Et sa femme travaille aussi pour Einaudi, je pense à ça, parce qu'elle faisait les revues et elle avait fait un livre sur les immigrés italiens en Suisse qui avait fait qui avait un énorme impact, parce que ça ne se faisait pas. Et puis qu'ils avaient assez de prestige, ils étaient protégés par leur situation sociale pour pas avoir d'ennuis, comme un vulgaire gauchiste quelconque. C'était que des interviews, et c'était des interviews qui avaient une puissance de déflagration énorme. Ouais. Parce que ces gens, il n'y avait pas de regroupement familial, donc ces gens vivaient dans des algécos et restaient 9 mois par an et devaient rentrer chez eux 3 mois par an, face à une situation un peu moyenâgeuse qui date d'il n'y a pas longtemps.
Et c'est une situation que Andy a intéressé en effet Enrico et son épouse.
Delia Castelnuovo.
Française aussi de culture. Et en effet, l'intérêt pour le... pas forcément pour le personnage anonyme, mais ou pour, j'allais dire, l'artiste anonyme,
est
quelque chose qui a dit fondamentalement intéressé Castelnuovo. Alors, c'est aussi une des chances de l'histoire de l'art italienne qui est liée à la conservation de son patrimoine. On a, même pour le XIVe ou XVe siècle, d'innombrables tableaux encore conservés presque in situ dans le lieu pour lequel ils ont été peints et pour lequel on a un nom, mais qui ne nous dit pas grand-chose, d'accord, et parfois des œuvres anonymes. Et Castelnuovo s'est intéressé fondamentalement d'abord à l'histoire de l'art du Moyen-Âge, du XIVe et du XVe siècle, et il a été face à cette marée, en quelque sorte, d'œuvres ou de noms qu'on ne pouvait pas forcément situer. Il a fallu recréer des, je vais pas dire des destins, parce que le terme déjà renvoie une idée de génie, mais des parcours, en quelque sorte, d'artistes anonymes qu'on ne savait pas forcément situer. Et ça, alors ça, même Longhi avait réussi à le faire, par exemple, des artistes qui avaient un nom. Mais quand Longhi fait le premier essai extrêmement brillant sur Gentileschi, il retrace comme ça une évolution une culture visuelle d'un artiste en disant juste dans la dernière note, ah oui, il est né à telle date, il meurt à telle date, d'accord, mais en disant, bon, c'est entre 1610 et 1620. Mais cette idée, vous voyez, c'est l'idée de quelqu'un, quand quelqu'un se forme une culture visuelle, réagit par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il voit de Caravage, par rapport à son séjour à un moment en Angleterre, etc., ou en France, par rapport à ce qu'il peut voir en France, sans que ce soit le mythe du génie et le mythe de la vie et de l'œuvre, en quelque sorte. L'œuvre réussit à recréer un parcours et l'artiste peut rester, on peut le faire pour Gentileschi, mais on pourrait le faire presque aussi pour un artiste anonyme et pour lequel on ait des œuvres en quelque sorte signées. Et cette idée de la biographie, en quelque sorte, à moins que ce soit une biographie moyenne, n'était beaucoup moins importante, en quelque sorte. Et ça, en effet, c'est quelque chose. Et du coup, pour le Moyen-Âge, on avait des cohortes d'artistes, ne serait-ce aussi par l'idée même de corporation. Et Enrico Castelnuovo a fait un très beau livre sur l'artiste au Moyen-Âge. Est-ce qu'il s'est-il un artiste au Moyen-Âge ? Et je pense qu'il était très sensible au parallèle, j'ai vu en parlant avec lui, au parallèle avec les situations contemporaines. Ne serait-ce que, par exemple, sur l'histoire des expositions, les problèmes d'accrochage.
Il aimait beaucoup Harald Zeman. Ça fait penser qui a inventé l'art contemporain, en fait. Enfin, qui l'a, comment dire, institutionnalisé, mais ce n'est pas un mot qui va très mal à Harald Zeman, mais qui a fait quand les attitudes deviennent formes et des choses comme ça. Donc, oui. Et il le défendait... Voilà. Sur cette part de réflexion et de rêve, c'était quelqu'un de très intéressant.
Et il y avait aussi, chez Castelnuovo, cette curiosité, intellectuelle, cette curiosité visuelle. D'accord. Donc, on arrivait, moi j'ai fait 2 ou 3 séminaires à l'école normale avec lui, on arrivait avec quelque chose qui était à peu près ordonné, d'accord, préconçu, qui était un tout petit peu bouclé, on en ressortait. L'objet avait éclaté dans 1000 directions.
Il nous montrait énormément d'images aussi, je dois dire que c'est... Et comme c'était le patron de la fac d'histoire de l'art, il avait imposé ça, et il m'avait engagé comme assistant étudiant, et une partie de mon travail consistait à photographier des images pour en faire des diapositives. Mmh. Donc il n'y avait pas un cours sans 50, 60 images, quel que soit le sujet. Et ça nous a... Quand on fait un sujet, je ne sais pas, comme... les fontaines de Jouvence sur leurs divers matériaux, c'est extraordinaire. Ouais. Je pensais à Malraux, mais c'est une espèce de, aussi sur un syndrome français. Et alors vous-même, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne, je suppose qu'elle est 6 à Dijon.
Merci de Bourgogne, en effet, 6 à Dijon. Alors, comme beaucoup d'universités françaises, c'est un tout petit peu éclaté, mais le siège principal, en tout cas pour les sciences humaines et sociales, est à Dijon. Et alors, moi-même, justement, j'ai été fortement marqué par cette approche de Castelnuovo, de Gianni Romano et d'autres historiens de l'art italien, Carlo Ginzburg, historien de l'art, comme par exemple les recherches de Bruno Toscano sur la peinture en nombril, qui partait réellement de cartographie, là pour le coup. Et je dirais que je suis arrivé à Bologne en 1984 ou 85, en voulant faire une thèse d'histoire sociale de l'art, un peu à la Pierre Bourdieu, en montrant une automisation du champ artistique à Bologne au cours entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et que la lecture, la découverte de l'historiographie de l'art italienne, les discussions avec Enrico Castelnuovo ont fait exploser le sujet, en regardant beaucoup plus vers l'anthropologie, avec les travaux de Clifford Geertz, par exemple, auquel était très sensible Castelnuovo, en regardant aussi d'autres types d'histoires, comme justement la micro-histoire, qui n'était pas encore totalement passée quand même en France dans les années 1980, en gardant des idées fondamentales de Bourdieu, qui sont des idées de champ, de capital symbolique et culturel, mais en essayant de ne pas forcément, j'allais dire, recréer une histoire téléologique où il faudrait aller forcément vers une automatisation du champ. Et ce qui m'a intéressé à Bologne, c'est que finalement, on avait une situation inverse, et qu'on pouvait avoir presque peut-être un champ artistique relativement autonomisé dans les années 1640-1650 par un lien avec le marché extrêmement fort, et qu'au contraire, au XVIIIe siècle, à un moment où se formait le concept d'école bolognaise, on avait des artistes qui étaient extrêmement dépendants à tout point de vue, économiquement, symboliquement, de leur commanditaire et d'une certaine idéologie, on va dire, urbaine. Une concentration urbaine du pouvoir. Mais ça m'a aussi fait regarder d'autres horizons dans cette histoire sociale de l'art. Donc, je dois aussi, je tiens à le dire, remercier Antoine Schnapper, qui était mon professeur, qui a eu des paroles assez dures sur ce que pouvaient apporter les sciences humaines pour l'histoire de l'art, et qui m'a laissé gambader réellement entre Panofsky, Bourdieu, etc., sans jamais me contraindre, et qui m'a dit « on verra bien, vous allez arriver à la fin ». Voilà. Et je suis arrivé à la fin à une approche un tout petit peu différente de celle de Bourdieu, tout en reconnaissant à chaque fois l'importance de ce qu'avait pu apporter la sociologie de Pierre Bourdieu, et aussi tout l'effort de traduction qu'il avait fait. Cette histoire sociale de l'art, j'ai cherché un tout petit peu, à la fois que j'étais professeur à Aix et à Dijon, à la mettre en place aussi par cette idée de géographie artistique qui est quand même fondamentale. Et alors c'est beaucoup plus difficile en France, qu'en France on est un pays de la table rase, c'est-à-dire qu'on a eu l'iconoclasme déjà au XVIe siècle qui a fait disparaître ou bouger toute une partie des œuvres telles qu'elles étaient situées dans les églises au XIVe siècle. Il y a la Révolution qui centralise, il y a le XIXe siècle qui centralise également, il y a le poids des musées quand même qui a aussi centralisé par rapport, importer, émigrer toute une série de chefs-d'œuvre de la province vers la capitale, et que c'est malheureusement assez dur de pouvoir comprendre, restituer ou comprendre ce qu'était la culture visuelle, par exemple, de quelqu'un à Dijon au XVIe siècle ou d'un habitant des campagnes à Dijon, près de Dijon au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors que c'était un des buts de Castelnuovo, il l'a fait aussi par une très belle exposition sur les arts à Turin pendant tout le XIXe siècle, alors que c'était justement un des buts dans les Castelnuovo. Cette histoire de l'art par le bas, en quelque sorte, pour reprendre une image assez courante maintenant en histoire, elle est plus difficile à faire en France par cette extrême destruction des œuvres qui ont existé, il faut le reconnaître, et aussi cette extrême mobilité, en quelque sorte, ce déplacement perpétuel des œuvres. Mais il y a d'autres types d'approches. On a en revanche, par exemple, des séries remarquables sur les inventaires après décès au XVIIe ou XVIIIe siècle qui nous permettent, au moins pour Paris, par exemple, de comprendre un tout petit peu, ça a été les travaux... certaines de mes études, des travaux en cours de Michael Santo et d'autres, de comprendre comment émerge le monde de l'art ou les mondes de l'art à Paris au XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc il y a encore beaucoup de champs à explorer, et je pense aussi qu'une des... je ne vais pas dire une leçon, parce que le terme ne lui plairait pas, mais un des grands apports, une des grandes expériences de faire l'histoire de l'art avec Enrico Casanovo, c'est de montrer que des sujets rebattus ou que l'on croyait à peu près dominés, on pouvait rebattre les cartes, en quelque sorte, et l'explorer, et après l'exploiter et en refaire une autre histoire assez différente. Et ça, c'est un des plus, un des apports fondamentaux de... d'Enrico Castelnuovo. Et par exemple, Gianni Romano a montré, a refait une autre histoire de l'art à Mantoue entre 1400 et 1520 qui est passionnante, qui se lit, j'allais dire, presque un roman en mettant en jeu d'autres intrigues. Pour ça, il y a un lien très fort, peut-être là-dessus qu'on pourra finir, avec par exemple aussi une certaine iconographie française, non seulement avec les apports de Bourdieu, mais aussi par exemple avec l'idée de Paul Veyne que l'histoire de l'art, il faut chercher des intrigues, que ces intrigues se renouvellent et que cette histoire de l'art, en quelque sorte, est un roman. Elle est loin d'être une science exacte, elle est une science humaine et sociale dans tous les sens du terme, dans toutes les valeurs du terme, et par ce titre-là, à ce titre-là, elle est à chaque génération renouvelée.
Oui, très bien, merci. Et vous avez des publications, vous publiez des... C'est quoi votre dernier livre publié?
Alors j'ai justement cherché à renouveler des approches historiographiques et des approches de l'art en faisant un texte qui est sorti en 2012, si mes souvenirs sont bons, sur le problème du caravagisme, hein, si on montrait que le caravagisme était une notion qui avait été créée en histoire de l'art au XXe siècle par un besoin à la fois du public, de l'histoire de l'Europe avec les deux guerres mondiales, et que c'était finalement... une peinture qui était peut-être beaucoup plus éloignée de ce qu'était l'idéologie de la peinture de Caravage, mais qui avait pu marquer l'Europe parce qu'elle répondait à certaines attentes, notamment de l'Église, dans son approche du réel et dans un effet en quelque sorte dramatique permis par le clair-obscur qui permettait de susciter les sentiments chez le spectateur. Et en essayant du coup de déconstruire en quelque sorte un objet pour reconstruire d'autres parcours dans cette histoire de l'art européenne, histoire de la peinture européenne au début du VIIe siècle. Le dernier livre est sur Poussin et Louis XIV, où j'ai cherché à montrer, face à l'artiste Poussin dont on avait fait un bloc monolithique en quelque sorte, comment il n'aurait pas pu avoir Poussin sans Louis XIV, et comment Louis XIV est aussi un des créateurs de Poussin, du génie de Poussin comme génie français, et comment d'autre part il n'y aurait pas pu avoir le Louis XIV comme défini comme patron des arts sans justement la peinture de Poussin qui à un moment était mise comme parangon mais tout de suite critiquée de la peinture française, une peinture en effet qui va en fait être un échec parce que Poussin s'exprime dans le petit format ou dans le format tableau médiocre, 1 mètre sur 2 à peu près, alors que toute la peinture française, toute l'histoire de la peinture française, à partir notamment dans une série continue, à partir de Louis XIV, va être une histoire de grand format, que ce soit les grands décors de Versailles, le salon, la peinture de salon au XIXe siècle, ou même jusqu'à la danse de Matisse.
Je me souviens d'un pamphlet de La Fonsaïenne, qui a fait des salons juste avant Diderot. Oui. Qui se plaint de la disparition de la peinture d'histoire à cause des miroirs à Versailles.
Voilà, qui se fait l'impression, qui dit que ces tableaux sont uniquement des dessus de porte. Mais en fait, il y a toujours eu une tradition royale, une tradition d'État, en quelque sorte en France, qui apprenait le grand format. C'est aussi l'accrochage du Louvre de la Révolution. D'accord. Et là, en revanche, l'art de Poussin, à la fois à tout point de vue, aussi au point de vue plastique, ne marche pas. C'est ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre. Et qu'en revanche, Lebrun avait tout de suite compris, en allant chercher aussi chez Rubens, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup d'éléments, et avait tout de suite compris quelle était la demande, on va dire nationale, peut-être plus que française, pour la peinture.
Bah écoutez, merci bien, c'était formidable. On a parlé d'histoire sociale de l'art avec Olivier Bonfait. Tout va bien, c'était La vie est un roman sur Allegre FM 93.1.
93.1.
Une émission présentée par Nadia Itaïev.